Le rendez-vous politique de Radio Prévert concernant les élections législatives, vous le savez, les 12 et 19 juin 2022, les électeurs sont appelés aux urnes dans le cadre de ce scrutin. Pour l'occasion, les Français auront à exercer leur devoir civique pour désigner leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et vous le savez, dans la troisième circonscription de la Sarthe, 9 candidatures ont été enregistrées. Parmi ces candidatures, il y a celle de Bruno Pinson et de son suppléant qui est Christophe Agnier. Tous les deux sont les invités de Radio Prévert aujourd'hui. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de donner aux auditeurs l'essentiel des raisons qui motivent votre candidature. Merci d'avoir accepté de leur présenter les perspectives que vous avez pour cette troisième circonscription de la Sarthe. Vous nous direz dans quelques minutes ce qu'elle représente à vos yeux. Il sera également question des dossiers prioritaires pour la troisième circonscription de la Sarthe. Et avant de commencer, il serait bien que les auditeurs vous identifient. Qu'est-ce qu'ils devraient savoir du candidat? Qu'est-ce qu'ils devraient savoir du suppléant? On va commencer par Bruno Pinson.
Alors Bruno Pinson, 60 ans, je suis natif de Maillé. J'habite Beaumont-Pied-de-Bœuf, je suis un ancien artisan commerçant. Mes fonctions par rapport au Rassemblement National, je suis responsable des adhésions et de la communication. Je m'occupe de la fédération depuis à peu près 2 ans, depuis que Raymond de Malherbe a été nommé à la tête de la Sarthe, voilà, tout simplement. Mon suppléant, Christophe Agnier, 55 ans, ouvrier qualifié, et mon responsable adjoint au niveau des adhésions.
Monsieur Agnier.
Oui, bonjour. Agnier Christophe, 55 ans. Je suis de Maillé, ancien conseiller municipal de Maillé de 2014 à 2020.
Pinson Bruno, oui, vous voulez
ajouter quelque chose. Petit rajout. J'étais le président de la FFMC, donc la Fédération Française des Motards en Colère, dans les années 80, ça fait quand même un certain temps, et à l'un des créateurs de la Mutuelle des Motards, qui fonctionne toujours. Voilà, c'était juste l'aparté, je m'en occupe plus actuellement, mais c'est un mouvement qui fonctionne toujours.
Alors une fois les présentations étant faites, on va en venir à la candidature. Est-ce que ça allait de soi que vous soyez candidats tous les deux aux élections législatives dans cette troisième circonscription de la Sarthe, ou est-ce que ça a été un cheminement, on va dire, plus ardu?
Ça peut être un cheminement ardu, mais ça s'est fait d'une façon assez logique, dans le sens où, aux élections départementales où j'étais candidat sur le canton du Lude, je réalise le meilleur score du RN au deuxième tour avec 24,89%. Et un taux d'abstention énorme puisqu'on était en période Covid. Donc mon ami Raymond de Malherbe a trouvé tout à fait légitime que ce soit moi qui représente la troisième circonscription.
Et le fait que vous soyez en binôme, si j'ose dire, avec votre suppléant, Christophe
Agnier. Ben moi, c'est pas du tout. Moi, au contraire, on était en une réunion de fédération, et on m'a demandé si ça m'intéressait d'être suppléant, et j'ai dit au contraire, je serai là et je serai actif.
Et pourquoi ça vous intéresse d'être suppléant?
Ah bah déjà, rien que les résultats, malheureusement, des présidentielles, il faut avoir une opposition forte à Macron. Et c'est ça ma motivation première.
Comme le disait Christophe, oui, la seule opposition réelle à Macron, c'est le RN. Macron n'a réussi qu'une seule chose, c'est enrichir les riches pendant son mandat. Les riches sont enrichis de plus de 236 millions d'euros. C'est quand même un petit détail.
Voilà. Et votre candidature, elle est fondée sur le fait que vous voudriez constituer une opposition forte au président, une opposition forte au président actuel.
Tout à fait. Et quand on voit l'état de la troisième circonscription, enfin de la Sarthe en général, je pense qu'il est grand temps de faire quelque chose, quoi. Ce sont les mêmes qui nous gouvernent depuis 40 ans, s'appelant LR, UMP, etc. Enfin, on sait plus trop comment ils s'appellent d'ailleurs, maintenant, on sait plus. Mais qui ont tout démoli, qui maintenant se prétendent les sauveurs,
pour reconstruire. Et en disant la, l'opposition, oui, parce que, comme vous voyez, M. Mélenchon qui se dit l'opposition à Macron, mais il faut pas oublier que le lendemain, enfin le soir même des élections, il a demandé à voter Macron. Et juste après, il dit c'est l'opposition, je comprends pas tout. Voilà.
Alors, la troisième circonscription est bien celle dans laquelle vous présentez votre candidature, messieurs. À vos yeux, que représente-t-elle cette circonscription dans le département ?
Alors, pour moi, c'est une circonscription que j'ai quittée pendant 30 ans pour y travailler sur la Côte d'Azur, où j'ai exercé mon activité. Je suis parti de la région, j'ai connu, il y avait encore des entreprises comme Bioplay-sur-Mayer, Candia sur le Lude, vous aviez Audax sur Château-du-Loir et d'autres dont j'ai oublié les noms. Et actuellement, il y a plus grand-chose. Donc, ce qui veut dire que autrefois,
Arjo Wigging aussi a baissé.
Arjo Wigging, oui, que j'ai soutenu et j'ai fait signer X pétitions. D'ailleurs, j'étais allé rencontrer les futurs licenciés, malheureusement, d'Arjo Wigging avec, en compagnie de Jordan Bordella. Et à l'époque, était encore chez nous, Nicolas Bay. Mais c'est quand même, la Sarthe est très appauvrie au niveau industrie.
Pour vous, monsieur Agnier, que représente la troisième circonscription à vos yeux?
Déjà, la troisième circonscription à mes yeux, elle représente quand même une force pour le RN. Elle a quand même arrivé, le RN est arrivé premier aux deux tours dans la troisième circonscription des présidentielles. Au deuxième tour, le RN fait 50, à peu près 51%.
Et donc, vous vous dites que c'est un bon tremplin pour que vous soyez, au soir du 19 juin, député de la troisième circonscription de la Sarthe, Bruno Pinson?
Alors, la troisième circonscription, c'est une circonscription où nos scores évoluent d'année, enfin, à chaque élection, on évolue. Là, au niveau national, enfin, sur l'échelle de la France, on prend quand même 8 points de plus, ce qui est énorme. Au départemental, ce que je disais, j'avais fait le meilleur score, qui était quand même le deuxième score historique. Enfin, tous les candidats du RN ont fait le deuxième score historique du RN, malgré la conjoncture, quoi.
Le Covid.
Donc, qu'est-ce que ça augure pour vous ?
Il y a un signe, hein, quand on me demande ça, c'est assez simple. Quand on est dans alors surtout notre circonscription, j'ai l'habitude de dire, moi, mon sujet phare, c'est la santé. On n'a plus de médecins traitants dans les campagnes. On a des hôpitaux. Ah, j'en compte trois. En réalité, il y en a deux sur le terrain. Mais le troisième, je considère qu'il y a le Bailleul, je considère qu'il y a la troisième, mais il est à cheval, il est sur la quatrième circonscription. Mais en réalité, les gens de la Flèche, pour les gens de la Flèche, c'est l'hôpital local, hein. Il est juste excentré de la ville de la Flèche. Trois hôpitaux qui battent de l'aile. Donc, ce qu'on dit, nous, au niveau du RN, et ce que je soutiens très fortement, il faut supprimer les ARS qui usent et qui ne servent strictement à rien. Ils font de la paperasse, des sujets comptables, bref, ils ne servent à rien. Ils nous coûtent une fortune. Il faut remettre en place un directeur médecin dans les hôpitaux avec un adjoint en directeur administratif. Il faut réintégrer les 15 000 soignants qu'on a licenciés sans indemnité. Ça, c'est le travail de notre première ministre, Madame Borne. Sans rémunération, avec effet rétroactif des salaires. Alors, il y en a beaucoup qui sont orientés différemment, évidemment, ils sont écœurés. En ce qui concerne la désertification médicale, il est urgent de voter une loi pour que les jeunes diplômés médecins rendent du temps à la nation qui leur a payé leurs études. Si ils ne rendent pas de temps dans les c'est-à-dire qu'on leur demandera d'aller travailler là où on a besoin d'eux, sinon, ils remboursent leurs études, s'ils cessent, voilà ce qui paraît logique. Et il faut instaurer un quota, comme ça existe au niveau des pharmacies. On ne peut implanter une pharmacie que par rapport à un quota de population. Donc il faut faire strictement pareil pour les médecins. D'ailleurs, c'est incohérent que l'un et pas l'autre. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et tout ça fera que, en mettant des médecins, les gens vont venir s'implanter en Sarthe, vont rester en Sarthe. On va pouvoir maintenir nos classes scolaires. Or, actuellement, c'est pareil, c'est comme les ARS, on fait un gymkhana de calcul. On ferme une classe, on en réouvre une. c'est un pataquès qui a pas de nom. Et je vois pas où est le ridicule d'avoir un enseignant qui n'est que 7 ou 8 mômes. Au contraire, ce sont des mômes qui vont être à l'écoute, enfin qui vont pouvoir travailler correctement. Il vaut mieux payer quand même un enseignant pour 8 élèves que d'avoir un chômeur de plus.
Alors, vous êtes passé à une autre thématique, l'éducation nationale, on va y revenir après. Restons sur la santé. Vous disiez, Bruno Pinson, candidat Rassemblement national aux élections législatives dans la 3e circonscription de la Sarthe, qu'il faut supprimer les ARS. ARS, pour les auditeurs, il faut préciser, Agence régionale de santé.
C'est ça.
Alors, la question de relance, si on supprime l'ARS, quelle instance va coordonner les actions de santé au niveau régional? On va dépendre directement de Paris ou quoi?
Du préfet, comme c'était autrefois le cas, si ma mémoire est bonne.
Oui, il y a des agences territoriales dans chaque département. Il y a l'ARS au niveau régional,
là, ouais.
Et puis il y a une délégation départementale dans chaque département.
Mais c'est au préfet qui représente l'État dans le département de gérer ça, d'être le grand ponte, on va dire. Et je vous dis, un médecin directeur de son hôpital, puisqu'il connaît le sujet, et un directeur administratif pour tout ce qui est paperasse, compte, comptabilité, etc., qui n'est pas son boulot à lui. Mais le médecin sait très bien comment il doit gérer son service ou ses services.
Comme on voit aujourd'hui...
Christophe Agnier.
Comme on voit aujourd'hui, j'ai encore entendu dans les radios ce matin, les radios locales, que les urgences de Château-du-Loir sont encore fermées aujourd'hui pour 24 heures. C'est inadmissible.
Ce sujet, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Bruno?
Non, c'est un peu Dallas. Hein. Tous les jours, vous ouvrez le journal, c'est un coup c'est Saint-Calais qui est fermé, un coup c'est Château, un coup c'est le Bailleul. Et le Bailleul a quand même coûté la vie à une personne parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucun soignant pour réceptionner le malade. On arrive quand même dans un extrême.
Du
Bailleul, voilà.
Du Bailleul au Mans, il arrive au Mans, il est décédé.
Alors, le Bailleul, c'est quand même la deuxième structure sur le Mans, qui est une structure récente.
Sur
la Sarthe. Avec du matériel digne ce nom. Donc, c'est un hôpital qui doit fonctionner et qui se doit de fonctionner.
Il y a un IRM, il y a tout là-bas.
Donc, une situation compliquée, une situation difficile à vos yeux, désertification médicale, vous proposeriez des solutions très strictes, c'est-à-dire oui. qu'on oblige les médecins à s'installer sur les territoires ruraux, par exemple, où on note les plus forts taux en matière de désertification médicale?
Tout à fait, oui, bien sûr. On le fait dans d'autres domaines. Hein.
Un prof qui vient d'être professeur choisit pas son poste, on le nomme à une place et puis voilà. Et quand vous voyez que tous les médecins vont sur la Côte d'Azur, eh ben on devrait, comme Bruno disait tout à l'heure, on devrait faire des quotas. Par tant d'habitants, il faut tant de médecins, pas plus. Comme ça, au moins, on aura peut-être du monde dans les déserts médicaux.
Vous habitez où, si ce n'est indiscret?
J'habite à Maillé, moi. Ça fait 15 ans que j'habite à Maillé. Et on a un beau truc de médecine là-bas. Mais manque de peau, il y a quoi? Il y a un, deux médecins, c'est tout.
Maison médicale.
On a une belle maison médicale. Alors, pareil, il y a eu des médecins étrangers qui sont venus, dont que j'avais en médecin traitant, en roumaine, dont une qui est venue, qui est partie après Lénian-le-Blain, qui est repartie ailleurs, donc instable, une deuxième qui est venue, enfin bon, et là on a enfin un médecin qui se pose et qui est maillé, quoi, a priori. Et le fait de donner des enveloppes d'argent pour que les médecins s'en plantent, c'est un leurre.
Pour vous, c'est pas la solution?
C'est pas la solution.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Mais même l'association de défense pour les désertifications médicales est contre ce principe. Ils sont sur ma ligne. Enfin, je suis sur leur ligne. Hein, j'ai été dans plusieurs débats.
Pourquoi vous pensez ça?
Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, s'il y avait un conflit demain, comme l'ont connu nos anciens, vous êtes mobilisable de tel âge à tel âge. D'accord? C'est triste, hein, je ne souhaite pas que ça arrive. Mais on vous demande pas votre avis si vous voulez pas.
Donc, ce que vous voulez dire, et je fais une déduction, en situation de crise,
Il faut prendre les moyens.
ben là, faut employer les grands moyens. Et en plus, on est quand même, vous habitez en Sarthe, a priori, moi aussi, on y vit bien, donc pourquoi on serait délaissé par rapport à d'autres secteurs, comme la Côte d'Azur? Alors moi, j'ai habité 30 ans sur la Côte d'Azur, c'est très bien la Côte d'Azur. Seulement, je peux vous assurer que si vous êtes smicard, c'est un peu plus compliqué parce que les loyers sont beaucoup plus chers, le bâti coûte beaucoup, beaucoup plus cher, tout est plus cher. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a plus d'activités, vous avez la mer, la montagne, mais ça, c'est un autre sujet. Mais faut gagner sa vie si vous habitez là-bas.
On a parlé de santé avec vous, Bruno Pinson, candidat à Rassemblement National aux élections législatives avec votre suppléant, Christophe Agnier. Il n'y a pas que la santé qui est un sujet important à vos yeux. Vous évoquez également l'éducation. Pourquoi vous mettez l'éducation en termes de priorité?
Alors, il y a deux sujets importants. Il y a deux sujets où on ne doit pas compter rentabilité. C'est la santé, parce qu'on a tous droit à la santé et à vivre le plus longtemps possible en bonne santé, et l'éducation. Parce que si on l'éduque pas jeune, on crée forcément des délinquants. Il est plus facile de gagner 3 000 à 4 000 euros par mois en allant vendre du shit que d'avoir un emploi digne de ce nom. Après, sur l'éducation, c'est pareil, et ça va en lien. Il faut savoir sortir les mômes à un certain moment s'ils ne sont pas faits pour faire des grandes études, et on n'a pas besoin que de gens qui soient super savants et qui ne savent rien faire en réalité. Il faut former aussi des jeunes dans l'apprentissage et rémunérer correctement l'apprentissage. Moi, je vois dans mes derniers... Bon, j'étais indépendant, j'ai retravaillé ici dans la Sarthe. Comme commercial, j'ai côtoyé beaucoup les artisans, et c'est un casse-tête de trouver un maçon, de trouver un charpentier. Or, c'est des gens qui peuvent très bien gagner leur vie. Un plombier, un électricien, digne ce nom, on en a besoin de ces manuels. Donc, il faut motiver les jeunes. Et c'est là où le programme de Marine tient la route. C'est quand un jeune va être en apprentissage à partir de 16-17 ans, qu'il aura cotisé pendant 40 ans, 40 annuités, et bien il pourra partir sans problème à la retraite à 60 ans.
Donc vous liez ça aussi avec la
retraite. C'est un ensemble. Vous démarrez plutôt avec un travail qui est quand même plus physique. C'est quand même plus pénible que le type qui est informaticien, qui est sur une chaise. Alors, c'est fatigant aussi, mais c'est pas le même type de fatigue. C'est-à-dire que je le vois bien et je le vois autour de moi. Personnellement, je suis un peu concerné aussi. C'est que les gens qui ont fait du bâtiment, arrivés 55 ans, ils sont un peu démolis, quoi. Donc, de toute façon, il y a un moment, et c'est un faux débat, puisqu'il y a un moment, les gens, ces personnes-là, ils sont en maladie ou en invalidité parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Mais ce qui leur réduit leur montant de cotisation retraite pour la sortie finale. Donc c'est...
Alors qu'est-ce qu'on fait finalement pour la retraite? Quelle est votre ligne au Rassemblement National?
40 annuités.
40 bon. Annuités de travail.
C'est simple.
C'est pas les années, c'est pas 65 Donc, ans, c'est 40 annuités.
Si vous finissez les études à 22 ans, vous n'avez pas fait de grandes études, mais non plus, pas des petites non plus, vous partirez à 62, etc., etc., quoi. Donc ça... Mais je pense que la personne qui finit ses études à 25 ans a quand même un travail beaucoup moins pénible et beaucoup plus gratifiant que celui qui part dans la vie active à 16-17 ans.
Donc un sujet important également à vos yeux, la retraite. Et avant la retraite, il y a l'emploi. Vous en touchiez un mot tout à l'heure. Et quel est, selon vous, le facteur clé, ou alors quelles sont les valeurs ajoutées sur lesquelles on pourrait tabler, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait s'implanter dans votre troisième circonscription, celle dans laquelle vous vous présentez? Hein, quelles sont ces plus-values-là, ces éléments déterminants qui en font sa valeur?
Alors, tous les jeunes de moins de 30 ans seront exonérés de charges. C'est le programme de Marine, hein, on n'a rien changé. De charges jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce qui peut permettre à des jeunes de se lancer. S'ils apportent un capital pour s'installer, on va dire de 10 000 euros, on mettra au bout 10 000 euros. Alors, certaines personnes m'ont dit oui, mais faut déjà qu'ils mettent 10 000 euros. Mais dans la conjoncture actuelle, il y a rien. Donc à partir de là, c'est quand même mieux que rien. Tu fais un effort, je fais un effort.
Autre proposition?
relancer l'apprentissage. Voilà, parce que quelqu'un qui commence à 16 ans en apprentissage, que ça compte pour la retraite. Avant, ça comptait, mais ils l'ont enlevé. Et puis rémunérer un peu mieux, parce qu'il y a comme ça, on cherche des bouchers, on cherche des boulangers, on cherche partout, on cherche dans le bâtiment. Il y a du travail.
Il faut revaloriser tous les métiers manuels, que ce soit les métiers de bouche ou les métiers manuels, bâtiment, etc. Et dans notre programme, il y a aussi le fait qu'on propose, on dit, nous, si on prend les rênes, on va exonérer de charges patronales les patrons qui augmenteront les salariés au-dessus du SMIC jusqu'à concurrence de 3 fois le SMIC. D'accord? C'est-à-dire que un employeur actuellement, s'il a un SMICard, donc il va être à 1 200 € à peu près, hein, on va être au centime près, qui lui donne 200 € d'augmentation, en réalité, il va sortir de sa poche, lui, en tant qu'entreprise, il va sortir entre 350 € à peu près. Donc, si on l'exonère de charges patronales, un, il pourra se permettre de faire cette opération, donc de faire un employé heureux, qui, alors quand on nous demande, ça va nous coûter cher, faux, parce que quand vous avez 1 200 € dans la poche, ou 1 400, les 200 € d'écart, vous ne mettez pas sous le matelas. De plus, si vous avez 20 ans, vous avez besoin de vous installer, d'investir, la voiture, la moto, etc., etc. Donc l'argent est remis directement dans le circuit. Et c'est quand on est jeune qu'on a envie d'avancer. Vous savez, à mon âge, j'ai plus envie de créer une entreprise. Quoique.
Vous pourriez encore?
Ça dépendrait des partenaires avec qui... Oui, il y a des gens avec qui je pourrais encore le faire, oui.
Sur le territoire, forcément?
Bah, évidemment, j'y suis. Mais c'est là où je me trouve, ouais. Je dirais que la place aux jeunes, quoi. Je veux dire, voilà.
Mais vous pourriez les.
Je m'oriente beaucoup plus dans autre chose, donc
en politique.
En l'occurrence, oui. Voilà.
Mais vous pourriez les conseiller.
Aussi, oui. Mais je suis un très bon commercial. Ça, je peux en former des gens. Ouais.
Et ce secteur professionnel qui serait une bonne piste selon vous et qui aurait sa place dans cette troisième circonscription, c'est quel secteur professionnel?
J'ai pas d'idée particulière parce que je me suis pas penché sur le sujet. Je lui dis, je suis vraiment la tête dans autre chose, mais il y a beaucoup de choses à créer, quoi.
Nous sommes toujours avec Bruno Pinson et Christophe Agnier, qui sont les candidats RN pour la troisième circonscription de la Sarthe pour ces 12 et 19 juin. Vous le savez, vous êtes appelés aux urnes pour élire le prochain député ou la prochaine députée. Alors nous avons encore beaucoup de temps à passer avec nos invités et nous aurons pour ambition d'interroger tous les 9 candidats ainsi que leurs suppléants s'ils le veulent bien. Ils pourront s'exprimer sur cette radio pour vous préciser les enjeux qui sont, selon eux, déterminants pour que vous, électeurs, vous puissiez vous exprimer en connaissance de cause. Alors je prends le programme du Rassemblement national pour ce scrutin. En matière d'économie, il est question d'augmenter le pouvoir d'achat et de baisser les taxes, vous venez de le dire à l'instant. Et en matière d'emploi... Vous alors, dites qu'il est...
Alors, les taxes, on n'en a pas parlé, mais ce qu'on veut, c'est baisser la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques, c'est-à-dire le carburant pour mettre dans la voiture, l'électricité, le gaz pour le chauffage, etc., pour se faire à manger. Donc vraiment, tout ce qui concerne, c'est une première nécessité. Il est quand même... on est au 21e siècle, il est quand même important de pouvoir se faire cuire un œuf sur un gaz à la maison.
Alors, vous dites qu'il est important d'augmenter le pouvoir d'achat et de baisser les taxes. Donc, hormis les cotisations auxquelles vous faisiez allusion, c'est à ça que je pensais notamment. Mais bon, on sort de ce cadre-là. C'est un peu plus général maintenant sur la consommation. C'est de ça qu'il s'agit.
Sur l'énergie, ce qui est nécessaire, ce qui est consommation obligatoire, c'est-à-dire tout ce qui est énergie, ce que je viens de dire, baisser la TVA de 20 à 5,5%. Ce qui sera une mesure pérenne dans le temps.
Sur l'énergie.
Sur tout ce qui est énergie, oui.
Sur le carburant.
Ça fait carburant, chauffage, première nécessité. Okay. Et aussi, la deuxième mesure, c'est supprimer la TVA sur les produits, sur 100 produits de première nécessité, que ce soit alimentaire ou
d'hygiène.
Et ces produits de première nécessité, ça représente quoi globalement?
Comme article, vous voulez dire, bah, ça va être le pain, la farine, enfin, les trucs de base, le basique, ce qui est le minimum.
Au quotidien.
Pour manger, vous avez deux œufs, la farine, un peu de lait et une goutte d'huile et vous arrivez à faire des crêpes et vous mangez.
0% de taxes, Bruno Pinson.
En temps de crise, oui. Elle va durer. Tant que la crise est en cours, oui.
Voilà. Ah d'accord. Et après, on remet le curseur.
On en reparlera au moment voulu. Pour l'instant, là, il faut répondre et réagir vite, puisque les gens s'appauvrissent de jour en jour. Je vous disais, comme je vous disais tout à l'heure, seuls les riches sous le gouvernement Macron ont réussi à s'enrichir quand même de 236 milliards pendant la crise. Donc ces 236 milliards, ils ne sont pas passés dans les poches des pauvres. Vous voyez ?
Quand vous disiez millions, là, c'est devenu milliards.
Non, c'est milliards. Non, j'ai dit milliards. J'ai dit milliards. J'ai dit millions. Non, c'est milliards.
10 millions, je crois.
Mais c'est milliards.
J'ai une écoute active pour mes invités, par respect pour mes invités.
Ah, vous faites bien. Non, c'est milliards.
Merci. Et dans la troisième circonscription, celui qui n'a pas de voiture ne peut pas aller travailler. Parce que les trois quarts des gens ont 30, 40 kilomètres pour aller travailler. Mmh. Alors, à 2 euros le litre de gasoil ou d'essence, ça commence à faire cher.
Donc là, 0% de taxes, vous l'avez dit.
Non, de 20 sur le carburant, de 20 à 5,5.
Ah oui, sur l'énergie, bah oui, là, on va pas raser tout gratis non plus. Mais bon, moi je vais au-delà, vous voyez, voilà.
Énergie de 20 à 5,5, première nécessité alimentaire et hygiène, 0. Sur les 100 premiers produits. Bah, 100, 102, ça allait, oui.
Alors, je vais revenir à un thème que vous avez commencé à aborder tout à l'heure en matière d'emploi, en matière d'attractivité. Dans le programme du Rassemblement national, il est question de souveraineté industrielle, si j'ai bien compris, hein, puisque contre ce que vous dites comme étant l'abandon de notre industrie et de l'agriculture, la solution, à vos yeux, c'est de favoriser les circuits courts pour défendre les emplois. Donc on relocalise.
Oui. Oui, et on consomme en priorité local, ce qui paraît cohérent. Il est quand même plus logique de manger l'entrecôte venant du charolais local que de celui qui vient du Brésil.
Et là, vous qui avez été chef d'entreprise, vous savez qu'il y a des choses qui relèvent du faisable. Il y en a d'autres, voilà, compte tenu des conditions pratiques qu'on a sur le terrain, on peut pas faire sans ces contingences-là. Est-ce qu'il n'y a pas un temps de transition aussi qu'on aura si on décide de changer du tout au tout ?
Très court, parce que en réalité, bah déjà sur tout ce qui est alimentaire, c'est assez simple, hein, c'est faire travailler les gens du coin. Sur les marchés, vous avez les producteurs locaux, les cantines, bon, ça commence à se faire, hein, c'est pas nous, mais c'est bien. On commence à acheter aux producteurs locaux, parfait, et il faut continuer dans ce sens. Parce que on nous embête sur la consommation, carburant. Alors mon grand ennemi, enfin un de mes grands ennemis, les écolos bobos, qui tapent régulièrement sur l'automobiliste parce qu'il pollue, etc. Mais on ne parle jamais des cargos qui transportent et qui consomment des tonnes et des tonnes de carburant. On n'en parle pas, c'est marrant quand même. Par contre, l'automobiliste, c'est la vache à lait, à la pompe. L'assurance, vos raquettes, vous avez dépassé, dès que vous dépassez un peu la vitesse, bing, un point en moins, une amende, c'est la proie facile.
Ah, rien que l'exemple, le baril de pétrole, il est à 88 euros le baril, on est à 2 euros le litre, à 2-3 centimes près. Comme les gilets jaunes ont été dans les rues, le baril était à 110 euros presque. Et le gasoil était 1,42€. Alors c'est quand même les taxes qui sont rajoutées. La guerre en Ukraine, c'est facile.
Il y a une grosse spéculation, vous en êtes très conscient.
Je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à vos amis, je vous cite pour le coup, bobo, écologiste, etc. Est-ce que pour vous, l'écologie, Bruno Pinson et Christophe Annier, candidats à Rassemblement National pour les élections législatives dans la troisième circonscription de la Sarthe, est-ce que l'écologie est un sujet pour vous ou pas ?
Ben, l'écologie est un vrai sujet, dans la mesure où on parle écologie au sens noble et non au sens écolo-bobo, oui, comme je vous le disais. Là, actuellement, on est en train de nous faire avaler des couleuvres en nous disant qu'il faut implanter des éoliennes. Mais derrière ça, c'est une arnaque, On est contre. C'est, voilà. Bah, je suis totalement contre. Il faut les démanteler. Il faut arrêter ça.
Pourquoi?
Parce que ça coûte très très cher.
Pour le peu que ça marche.
Et ça ne rapporte rien. Et c'est une escroquerie. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, vous êtes taxé quand vous faites votre plan, votre plein de véhicules à la pompe, sur la TJJ, machin truc, la taxe, qui sert à subventionner justement l'implantation des éoliennes. Les éoliennes, alors les éoliennes, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pied d'éolienne, c'est 1500 tonnes de béton. Là, l'écologie, vous allez m'expliquer. Le mât de l'éolienne, 100 ou 150 mètres, toutes les matières ne sont pas recyclables. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on démantèle une éolienne, on laisse le béton dans le sol et on enfouit le mât puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Les terres rares qui font tourner au niveau du moulin avant, hein, tout en haut, on va les chercher dans des pays où c'est des petits Chinois ou peu importe qui bossent pour ramasser. Alors là, il y a un truc, j'arrive pas à m'expliquer. On fait travailler des gamins comme esclaves pour une soi-disant écologie et ça ne rapporte rien. Sachant qu'une éolienne fonctionne, quand on vous dit qu'une éolienne fonctionne à 80% du temps, c'est 80% du temps où elle tourne. Regardez les éoliennes, vous voyez pas souvent tourner. Quand il fait très froid, elle ne fonctionne pas, et quand il fait très chaud, elle ne fonctionne pas non plus. De plus, l'énergie produite par une éolienne est revendue à EDF à un prix fixe. Et prioritaire, puisqu'ils ne peuvent pas la stocker, cette énergie. Moralité, c'est gagnant-gagnant sur toute la ligne.
Christophe Annier, vous voulez rajouter quelque chose, étant entendu que l'écologie, ça ne tient pas seulement qu'aux éoliennes. Vous serez d'accord avec moi?
Non, mais pas que.
Il y a d'autres enjeux.
Mais pas que.
Nous, on est pour les centrales nucléaires. Parce que rien qu'on voit Mme Laborde, c'est grâce à elle que...
Fechtenheim.
Voilà, a été fermée. A fonctionné très bien. Alors on ferme les centrales nucléaires et après on nous dit il faut aller acheter de l'électricité en Russie et tout ça, mais je comprends pas.
On fait tout un pataquès pour que tout le monde investisse sur la voiture électrique. En réalité, on s'aperçoit qu'on est fragile au niveau électricité, le tout électrique n'est pas possible. Donc on a mis la charrue avant les bœufs. Donc il faut qu'on soit producteur comme nous l'étions avec nos barrages, nos centrales, il faut redévelopper. Ça fait 20 ans qu'on développe plus les projets de centrales nucléaires. Et ça a un autre avantage, c'est que maîtrisant le nucléaire, on maîtrise aussi notre force de dissuasion, les deux étant liés. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la force de dissuasion dans un pays, c'est la paix assurée.
Avec les candidats à Rassemblement National, Bruno Pinson et Christophe Annier, dans la troisième circonscription de la Sarthe, pour ce qui concerne les élections législatives, nous sommes en train de passer en revue les sujets importants, les dossiers prioritaires. Alors messieurs, imaginons, on ne fait pas de la politique fiction dans cette maison, mais bon, imaginons que les électeurs vous font confiance. Quels sont, selon vous, les mesures qu'il faut prendre d'urgence, puisque vous l'aviez abordé, il y a le contexte de l'heure, hein, contexte géopolitique, hein, qui fait qu'il y a une conjoncture où on parle de sujets difficiles, pouvoir d'achat notamment et autres.
L'urgence au niveau économie, c'est baisser la TVA de 20 points à 5,5 sur tout ce qui est énergie. Ça, c'est au niveau monnaie. Et tout de suite réintégrer les 15 000 médecins avec effet rétroactif de leurs revenus dans les hôpitaux.
Il y a la sécurité aussi.
Je pense aussi qu'il faudra très très vite s'orienter pour développer le centre hospitalier de Mans vers un CHU, un centre avec une université accolée, de manière à avoir justement de l'enseignement de médecins proches, locaux, donc faire de la formation. Et je pense qu'un jeune qui se forme dans une région connaît forcément un copain, une copine, suivant le truc. Et on s'aperçoit que la région n'est pas plus mal ici qu'ailleurs, quoi. Ça permet de fixer des gens.
Christophe Annier, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, sur les sécurités aussi. On a oublié de parler aussi que dans la troisième circonscription, on ferme, parce que moi je suis de Maillé, je peux le dire, on ferme la gendarmerie de Maillé, la gendarmerie d'Aubigné-Dracan pour emmener tous les gendarmes au Lude. Mais ça, du Lude, il y a un petit souci qui se passe sur Maillet ou un truc comme ça. Tant qu'ils arrivent du Lude, il y a le temps qu'ils sauvent les voleurs.
Ou autre.
On en avait parlé avec vous, Bruno Pinson, ouais. Lors des précédents scrutins où vous étiez
tout
candidat.
À fait, ouais, c'est un sujet.
De ce sujet. Et à l'époque, je vous avais rétorqué que ce qui était en jeu, c'était une réorganisation, en fait, du dispositif.
Oui, mais l'organisation, c'est toujours au détriment du citoyen. C'est-à-dire que la réorganisation de la gendarmerie, enfin de la sécurité, des forces de l'ordre, finalement, plus on réorganise, plus on l'éloigne du citoyen. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont des zones blanches, de ces blanches. Il n'y a plus de gendarmerie, il n'y a plus de médecins, ben, il n'y a plus de scolaires, on est très mal desservi sur les moyens de transport, etc., etc. C'est un ensemble. On démantèle nos campagnes.
La poste qui ferme, il y a tout ça.
Tout le service public. La seule chose que je retiens qui a été bien faite, c'est le bus, je ne sais plus comment il s'appelle,
France Service.
Voilà, très bien, qui va dans chaque commune au service des citoyens avec diverses fonctions. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le faire d'ailleurs. Pour voir un peu comment ça fonctionne, mais j'ai des retours positifs.
Positif, oui. Positif, oui.
Et là, il y avait un sujet aussi dont vous aviez parlé à l'époque. Je suppose que ça doit toujours être d'actualité. À part les déserts médicaux, vous parliez des zones blanches et vous êtes personnellement impacté par cette situation. Est-ce que le député Pinson et son suppléant Agnier auront une action énergique si les électeurs leur font confiance pour qu'il y ait moins de zones blanches, parce que vous, votre téléphone, je vous ai laissé un message pour caler cet entretien, vous n'avez pas pu l'avoir, mon message. C'est ça, hein ?
Tout à fait. Mais alors, parce que des services... C'est-à-dire qu'avant, j'avais une box, comme tout le monde, et chaque opérateur de box avait un ampli pour les zones sinistrées. D'accord ? C'était un service qui a été supprimé, je crois que c'est en août dernier, par les différents opérateurs. Donc l'objectif de l'opération, parce que ça fonctionnait, c'était en place, donc c'était investi, donc je vois pas trop l'intérêt de l'enlever, c'est que vous devez racheter un outil plus performant pour qu'il fonctionne. Donc on est dans un jeu de consommation qui est ridicule. Et un téléphone, pour qu'il passe dans ce genre de zone, un premier prix, on va être de l'ordre de 250 €.
Et là,
c'est ridicule, parce que je sais qu'il y a des portables jusqu'à 800 €. Si vous voulez un haut de gamme, c'est 800 €. Mais c'est quand même c'est un budget pour un smicard.
Et là, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, puisque vous parliez de France Service tout à l'heure. En fait, ce qui est lié, c'est que il y a la dématérialisation de tous ces services-là.
En 2022, c'est inadmissible qu'il y ait encore des zones blanches. C'est inadmissible.
Tout à fait. Mais la dématérialisation, on a oublié aussi, on a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Moi, je dirais chez moi, j'ai beaucoup de personnes âgées. Vouloir dire de scanner, moi le premier, hein, scanner un QR code, déjà ça m'énerve. J'aime bien le contact humain, mais c'est bon, il n'y a plus personne, il faut arrêter. Comme on veut supprimer les professions de foi pour les élections, alors... Dans le temps, dans le futur, la nouvelle génération, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Mais actuellement, il y a quand même toute une génération, j'en fais partie, qui n'est pas née avec l'informatique. On a découvert l'informatique et le portable. Moi, mes premières années de travail, je tournais en tant que commercial et j'appelais mon bureau deux fois par jour pour savoir si le client avait besoin de quelque chose et ce qu'il fallait faire. L'avantage de cette époque-là... était quand même une très belle époque où on gagnait de l'argent, c'est que si vous interveniez, vous étiez réactif dans la journée, vous arriviez chez votre client, il vous accueillait à bras ouverts, et je peux vous assurer qu'on gagnait de l'argent, on faisait du chiffre d'affaires s'il y avait un relationnel. Or, maintenant, on est bouffé avec le téléphone, pour un oui, pour un non, et on ne peut plus vivre sans, entre l'application, et même les impôts, on vous dit, allez sur le machin pour payer, vous allez dans les supermarchés, alors ça je trouve ça lamentable, moi j'y passe jamais, les caisses automatiques, alors que la petite caissière, ça permet de lui dire bonjour, de voir son sourire, et c'est quand même agréable, restons un peu humains, mais toutes ces machines pour remplacer l'être humain, personnellement ça me dépasse. Et à côté de ça, on crée du chômeur et des abrutis.
Bruno Pinson et Christophe Agnier, les enjeux à situer aux électeurs, c'est important, puisqu'on en parlait hors antenne avant de démarrer cet entretien, la participation au scrutin est un élément déterminant à vos yeux.
Tout à fait. Si les gens votent, c'est notre slogan d'ailleurs, si vous allez voter, on gagne les élections. Les gens qui ne vont pas voter actuellement sont les gens qui sont dégoûtés des élections, qui disent « ça fait des années que je vote et au final ça change rien ». Mais on s'aperçoit qu'à chaque fois, et ça sera certainement le cas, j'espère me tromper, mais à 20h01 du premier tour, vous aurez les LR qui s'associent avec Renaissance maintenant, ça fait la Renaissance LR, enfin il n'y a pratiquement plus de LR, ils vont s'acoquiner pour faire barrage au Rassemblement National. Idem sur tout ce qui est gauche. Et même la gauche Mélenchon, qui se dit gauche profonde, appelle à faire barrage à Marine. Donc on est dans un truc de, enfin c'est un truc de fou. Donc il faut que l'électeur de gauche il ouvre ses yeux et qu'il comprenne que le vrai défenseur du pouvoir d'achat, c'est le Rassemblement National et non Monsieur Mélenchon qui est une girouette.
Vous avez quelque chose à ajouter, Christ? Ah oui, il n'a pas terminé.
Non, non. Et pourquoi voter pour nous? Parce que justement, la ligne de Monsieur Mélenchon, on voit bien, il a nommé Elisabeth Borne. Donc, Elisabeth Borne, elle était ministre des Transports. C'est elle qui a mis l'ultra-libéral au niveau libéralisation, pardon, du chemin de fer. Donc, la concurrence à la SNCF, qui est déjà pas en bonne santé. C'est elle qui a fermé Fessenheim, la centrale nucléaire.
Fessenheim.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai du mal à prononcer. Excusez-moi. C'est elle, en tant que ministre du Travail, je le disais tout à l'heure, qui a viré, 15 000. Qui a créé un statut suppression de contrat de travail sans rémunération pour les soignants non vaccinés, pardon. Alors qu'on manque de médecins. Donc là, il y a quand même un non-sens. Donc la ligne de Monsieur Macron est bien dessinée, quoi. Donc c'est on laisse Monsieur Macron faire pendant 5 ans, ou on se réveille, et un député largement aussi important que un président. Après, ce que je voudrais expliquer aussi, c'est qu'il nous faut minima 15 élus députés en France pour avoir un groupe, c'est-à-dire du temps de parole à l'Assemblée, présenter des projets. Il nous faut minima 58 députés pour pouvoir déposer une motion de censure, c'est-à-dire bloquer certains projets style retraite 65 ans, etc. Et si on a plus de 180 députés, on peut... alors c'est 180 et quelque chose députés, on peut mettre en place un référendum.
Oui, puisque dans vos propositions, j'ai vu que vous parliez d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne et la proportionnelle, ça tient toujours ça?
Ah ben la proportionnelle, bien sûr. S'il y avait une proportionnelle, on serait représentatif. Il y a avec 42% au deuxième tour d'électorat, on devrait avoir au moins 200 députés. Quoi.
Il voulait le faire, Emmanuel Macron, ça.
Oui, mais les promesses... Vous savez, Monsieur Macron, il dit ce qu'il dit aujourd'hui, il dit le contraire le lendemain.
Quand vous voyez qu'en 2017, Marine fait 35%, on n'a que 8 députés, là, avec 42%, j'espère qu'on en aura plus.
Vous voudriez en avoir combien aujourd'hui?
Le maximum.
Là, en étant très réaliste et arrêter de mentir, comme le fait Mélenchon, disant ses électeurs, je serai Premier ministre, ça sera jamais le cas, nous visons un minima de 60 députés pour avoir justement, être capable d'avoir
de
une motion de censure.
En
étant raisonnable dans le système de vote actuel, hein, à deux tours où tout le monde s'associe et son copain au deuxième tour.
Merci d'avoir pris le temps d'exposer aux auditeurs votre vision du député, du rôle du député et vos perspectives pour la France pendant les 5 années à venir, puisque vous me l'avez dit, c'est une fonction que vous prenez très au sérieux. Vous nous l'avez dit hors antenne, Bruno Pinson, mais bon, je ne trahis rien en disant aux auditeurs que ce sera un mandat qui vous occupera à temps plein et sérieusement si les auditeurs vous font confiance. Vous assumez.
Ah, tout à fait. Bah, de toute façon, je s'entends, c'est ma nouvelle fonction, voilà, point.
Christophe Annier, merci à vous. Merci d'être venu et je précise que vous êtes le suppléant de Bruno Pinson et en précisant aux auditeurs qu'il faudrait aussi qu'ils aillent vous voir sur le terrain. Vous êtes où en campagne?
Alors on est régulièrement sur les marchés. Bon alors je sais pas quand est-ce que l'émission sera transmise, mais dès qu'il y a un marché sur notre circonscription, on y va le matin, on tracte. Bon c'est très court en la période électorale.
On voit les gens, on discute, on
va à la rencontre des gens et les gens viennent vers nous, c'est ça qui est bien. Moi j'ai fait la tournée des bus avec Marine les 15 jours, enfin ce qu'elle avait fait au niveau national. J'ai eu le bus de Marine avec un chauffeur, c'est pas moi qui conduisais, c'était mieux comme ça. Plus sécurisé d'ailleurs. On a eu un accueil formidable. Et les gens étaient assez surpris de nous voir arriver dans des petits villages où il y a 600 âmes.
Donc une campagne de terrain dans les petits villages. Ouais.
Oui. Mais moi je veux rajouter que si Bruno est élu, moi je suis suppléant, je continuerai à faire les marchés et tout ça pour voir les gens de terrain.
Très bien, si vous êtes élu, parce que c'est...
Oui, on est élus tous les deux.
Exactement.
Voilà.
Merci beaucoup Bruno Pinson.
Donc le seul truc, c'est voter.
Allez voter.
Allez voter.
Le 12 et le 19.
Merci Christophe Agnier, candidat à Rassemblement National dans la 3e circonscription de la Sarthe. Merci d'être venu. Les autres fois, c'était par téléphone.
Ouais.
Donc maintenant, c'est en studio.
C'est beaucoup plus agréable.
C'est une tradition qui va être maintenue pour les prochains scrutins. Aujourd'hui, c'était à Pont-Vallin. La prochaine fois, ce sera à La Flèche pour que vous découvriez les installations de Radio Prévert sur le territoire.
Très bien.
Merci.
En vous remerciant.
Merci, messieurs. Au revoir.
Et on sera là.